Que la lumière soit et la lumière fut, Fiat Lux dans la tête au carré. Donc cet après-midi, mais rassurez-vous, hein, nous n'allons pas commenter la première parole de Dieu lorsqu'il a créé la lumière au moment de la création du monde. Nous gardons notre cap scientifique et nous allons retracer le scénario qui s'est déroulé dans les premiers instants de l'univers. Lorsqu'après le Big Bang, la matière a laissé s'échapper la lumière. Que s'est-il passé exactement? Comment depuis la lumière nous parvient? Trois astrophysiciens sont nos invités dans un instant pour répondre à toutes vos questions. Et c'est à l'occasion d'une exposition actuellement à la Cité des Sciences à Paris et qui retrace le voyage de deux particules de lumière. Vos messages tout de suite en nous retrouvant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Et puis on restera dans l'espace, Axel Villard, avec la une de la science aujourd'hui.
Oui Mathieu, on va s'enfoncer vers le centre de notre galaxie avec une nouvelle exoplanète qui vient d'être dénichée grâce à une technique très prometteuse. Vos réactions comme d'habitude sur Twitter, on vous attend.
Violaine Ballet est aux commandes de cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Nassim Chik.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
2015, l'Odyssée de la Lumière, c'est donc à la Cité des Sciences en ce moment à Paris et je reçois les commissaires scientifiques de cette exposition, les astrophysiciens Roland Lehoucq, Hervé Dolle et Jean-Marc Bonnet-Bideau. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue Roland Lehoucq. Pourquoi la lumière s'est réveillée tout d'un coup 380 000 ans après le Big Bang?
Alors elle ne s'est pas réveillée, elle était déjà là, mais elle a pu se propager librement. Elle a cessé d'être emprisonnée par la matière, d'être diffusée par la matière au rythme de l'expansion de l'univers. Et elle s'est, libérée de la matière et elle a pu voyager et nous atteindre maintenant 13,8 milliards d'années après.
On va commenter évidemment cet événement majeur. Jean-Marc Bonnet-Bideau, la lumière, est-ce que ça se déplace toujours en ligne droite ou pas?
Ah non, justement, et c'est très intéressant quand elle ne se déplace pas en ligne droite, elle nous apprend beaucoup de choses sur ce qu'elle rencontre sur son chemin. Et c'est un des atouts majeurs de l'astrophysique maintenant.
Ouais, elle rencontre beaucoup de choses justement
elle
sur sa
route. Elle rencontre de la matière, quand cette matière est dense, elle est notablement déviée.
Ouais. Hervé Dolle, la lumière, c'est un élément indispensable à l'astronomie aujourd'hui. D'ailleurs, on va en parler dans un instant avec la une de la science. Mais
l'essentiel de l'information qui nous parvient aujourd'hui, c'est la lumière. On essaie bien de traquer les neutrinos et les ondes gravitationnelles de manière indirecte, mais la lumière est la signature unique, quasi unique aujourd'hui pour comprendre les confins de l'univers.
Voilà, il y a beaucoup de questions déjà qui arrivent tous azimuts sur le site de l'émission, donc on va vous les poser jusqu'à 15h, franceinter.fr avec les auditeurs qui nous rejoignent. Allez, on reste dans l'espace donc avec la découverte d'une nouvelle exoplanète, voyage au centre de notre galaxie, donc aujourd'hui à la une de la science.
On peut faire une comparaison. La Voie lactée est un peu comme une ville. Il y a le centre, avec les grands immeubles, ça grouille d'activité. Eh bien c'est vrai aussi pour notre galaxie. Ensuite, déplaçons-nous vers la banlieue. C'est un peu moins confortable, mais plus détendu. C'est un endroit plus agréable pour élever ses enfants.
Et justement, est-ce qu'on pourrait élever nos enfants sur une planète proche du centre de notre galaxie? À la une de la science aujourd'hui, donc, cette nouvelle exoplanète, découverte proche du bulbe galactique, une de plus, mais surtout une technique de détection qui fait ses preuves, visiblement, avec la NASA et qui ouvre de nouvelles pistes pour la chasse aux planètes jumelles de la Terre. Alors, pour en parler et commenter donc cette découverte de passionnés dans ce studio, Clément Ranque, vous êtes doctorant en troisième année à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et Philippe Henarejos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors justement, Philippe, qu'est-ce que cette nouvelle planète qui fait la moitié de la taille de Jupiter a de si intéressant? Parce qu'il y en a tout le temps maintenant,
oui,
des exoplanètes.
Hein. C'est une planète gazeuse comme on en connaît des centaines. Ce qu'il y a d'intéressant, il y a deux choses, c'est sa localisation. Sa localisation parce qu'elle est assez proche du centre de la galaxie. La galaxie, c'est un disque avec au centre un noyau très dense en étoiles. Et a priori, pour faire simple, je parle en plus sous le contrôle.
Ah ben là, vous êtes bien entouré. Hein. Attention, hein, ça rigole pas là.
Pour faire simple, les étoiles, les populations d'étoiles qui sont au centre de la galaxie ne sont pas forcément exactement les mêmes que celles qui sont à la périphérie. Donc, là où nous sommes, la périphérie. Et donc, toutes les planètes, toutes les centaines d'exoplanètes qu'on a déjà découvertes sont pas très loin de chez nous, dans la périphérie. Il y en a quelques-unes assez loin, justement avec cette technique, on y reviendra. Mais là, pour la première fois, grâce à deux observations faites par deux télescopes, un dans l'espace, un sur Terre, très séparés, ils ont pu voir la même observation à des moments différents et ainsi arriver à savoir exactement la localisation et la distance de cette planète, 13 000 années-lumière environ.
Ouais.
C'est-à-dire, nous, on est à 26 000 années-lumière du centre de la galaxie, 13 000, vous voyez qu'on est en périphérie du centre, en gros.
Donc c'est le bulbe galactique.
Voilà. Et ça, ce qui est intéressant avec cette planète, c'est que on se demande jusque-là si toute la galaxie, toutes les étoiles de la galaxie ont des planètes ou si au contraire les populations du centre sont différentes de celles de la périphérie. Mmh. Et donc là, c'est un indice. Je ne dis pas que la réponse est ferme et définitive, mais c'est un indice qu'effectivement, il semble y avoir des planètes à peu près partout dans la galaxie. Mais
alors,
l'enquête continue.
Clément Ranc, une technique utilisée, celle des micro-lentilles. Va falloir nous expliquer ce que c'est. C'est votre lot quotidien de doctorant. Donc ça permet de trouver des planètes sans en recevoir la moindre information lumineuse, c'est ça?
Exactement.
Si on comprend bien le principe.
Exactement. C'est vraiment l'originalité de cette technique et on en parle finalement relativement peu. C'est ce qui me fascine, c'est qu'on détecte un événement de micro-lentille, ce phénomène de micro-lentille, lorsque deux étoiles sont quasiment alignées avec la Terre. Et lorsque deux étoiles s'alignent quasiment avec la Terre, eh bien, il y a une augmentation de la luminosité de l'étoile la plus lointaine. Mmh. Alors vous allez me dire, bah, c'est logique, deux étoiles, une étoile lumineuse plus une autre étoile lumineuse, ça fait plus de lumière. Mais en fait, pas du tout. C'est un phénomène qui a été prédit par Einstein en 1936. Et l'étoile qui est entre l'étoile lointaine au centre de la galaxie et nous dévie les rayons lumineux qui proviennent de l'étoile lointaine. Si vous voulez, il y a plus de rayons lumineux qui sont rabattus sur Terre. Et c'est la raison pour laquelle on détecte cette amplification de lumière. Donc, sans nécessairement avoir besoin de recevoir de la lumière provenant de la planète ou de l'étoile.
Axel.
Et là, vous avez trouvé une planète qui fait à peu près la taille de Jupiter, hein, deux fois moins. Est-ce qu'on peut imaginer trouver des planètes de la taille de la Terre grâce à cette technique?
Oui, effectivement, cette technique, disons, son domaine de validité, son domaine d'efficacité, le plus grand en tout cas, c'est effectivement des planètes de type jusqu'à des planètes de type terrestre. Hein. On a trouvé par cette méthode une planète de 5,5 fois la masse de la Terre, par exemple. Rien n'empêche de trouver une planète de la masse de la Terre, et plus intéressant encore, relativement éloigné de son étoile, c'est-à-dire comme la Terre, finalement, à plusieurs unités astronomiques de l'étoile.
Ouais. Est-ce que cette technique, justement, ça permet d'aller très très loin pour, c'est l'un des avantages, détecter des exoplanètes vraiment à des milliers d'années-lumière de nous?
Oui, alors... Imaginez que, étant donné qu'il y a des exoplanètes autour de nous, imaginez qu'il y en a en fait vers le centre de la galaxie. Bon, c'est une chose. Et effectivement, on pouvait l'imaginer. L'observer, c'est autre chose. Et c'est ça la science finalement. Arriver à imaginer des choses et à l'observer. Cette méthode est la seule qui permette cela aujourd'hui.
Axel. Philippe, on se tourne vers vous pour les mauvaises nouvelles. Il y a un inconvénient quand même à cette technique, j'espère. Enfin, elle a l'air trop bien comme ça.
Non, effectivement. Ce qui a été dit est effectivement très juste, c'est-à-dire c'est une technique qui permet de faire des mesures très précises et de détecter des planètes très petites. Elle a un inconvénient, à mon avis, c'est que la planète qu'on détecte, on ne l'observe qu'une fois, parce que ce fameux alignement dont on parlait tout à l'heure, c'est une histoire de lumière déviée, comme on disait au début de l'émission. Ce fameux alignement ne se produit statistiquement qu'une fois pour le même corps.
Il ne faut pas le louper. Déjà, il ne faut pas le louper. Il faut prendre toutes les informations.
Déjà, on ne sait pas qui va arriver. Donc, on observe un certain nombre d'étoiles de fond de la galaxie.
Mais comment on tombe dessus? Alors, c'est incroyable.
On observe des
C'est le hasard.
Oui. Et donc, on attend que les étoiles du fond de la galaxie, soudainement... certaines d'entre elles se mettent à briller un peu plus, auquel cas on se dit « Ah, il y a un objet qui passe devant ». Et c'est en analysant la courbe de luminosité, puisqu'il y a un pic de lumière, s'il y a un deuxième petit pic, c'est qu'il y a une étoile plus un corps plus petit,
incroyable,
donc une planète.
Bon.
Mais on ne peut, hélas, observer ces planètes qu'une fois, parce qu'elles sont très lointaines. Les autres techniques, c'est inaccessible, c'est trop loin. Mm-hmm. Et un nouvel alignement n'a quasiment aucune chance de se reproduire.
Clément Ranc.
Oui, pour aller, plus loin sur l'utilisation et ce qu'a cette découverte de si particulière, c'est que l'utilisation d'un télescope spatial a permis de mettre en évidence un effet particulier, un effet de parallaxe. Et,
effet de parallaxe. Vous pouvez juste nous dire ce que c'est, comme ça en
passant.
Alors,
oui, c'est un effet géométrique, c'est-à-dire que Spitzer est très éloigné de nous, de la Terre. Spitzer observe
le télescope,
ce phénomène-là, le phénomène de micro-lentille gravitationnelle à un instant un petit peu différent de nous. Et donc, c'est ce phénomène, cette différence-là qu'on va exploiter pour déterminer à la fois très précisément la masse de l'exoplanète, mais aussi la distance. Oui. Et ça ouvre des portes
Je vois nos invités frétiller autour du micro. Jean-Marc Bonnet-Bideau, je sens que vous avez envie de prendre la parole.
Absolument, parce que ce phénomène de micro-lentille se répète aussi à de plus grandes échelles. Par rapport, on peut prendre une galaxie dont la lumière est déviée par une autre galaxie. Mm-hmm. Et là, les effets sont beaucoup plus importants. Et c'est une des surprises de l'astrophysique de voir que ça nous brouille l'image de l'univers, ouais. Cette déviation lumineuse.
Hervé Dolle.
Oui, puis si j'ai bien compris aussi, la rareté, la chance d'avoir deux aliments est compensée par la statistique, c'est-à-dire le nombre d'étoiles qu'on observe. Et donc, effectivement, on ne peut pas avoir la chance en instant T de voir ce qu'il faut, mais il y a tellement d'étoiles qu'on y arrive.
Roland, le Hook.
Ben rien, moi j'aime bien qu'on découvre.
C'est la première fois que vous ne prenez pas la parole.
C'est incroyable. Je trouve que c'est super. Ce que je trouve remarquable dans cette observation, c'est présent d'avoir pu observer ça avec deux télescopes, un dans l'espace et un au sol. Ouais. Et que cet effet de parallaxe dont parlait Clément, c'est qu'on a vu, comme si on avait un œil dans l'espace et un œil au sol, avec un. Ouais. Et ça a l'air pas si loin d'un autre.
Ça, mais ça n'empêche que. Troisième dimension.
Exactement. Alors d'habitude, nous, on est dans l'univers, on est collé. Tout est projeté sur la voûte céleste, la sphère qui semble.
Le nez sur le guidon.
Exactement. Et là, on est. Moins le nez sur le guidon.
Axel, sur le mot-clé d'attaque, il y a des réactions.
Oui, sur Twitter, Christophe Aigron qui nous dit « Il y a un trou noir au centre de la galaxie. À quelle distance de lui peut-on espérer trouver les premières planètes ?»
Qui veut répondre à cette question ? Allez, qui s'y colle ? Ah ben, personne n'a envie de répondre. Christophe ? On a trois astrophysiciens, un doctorant.
On va dire...
Je vais y aller, Philippe Péjard, le plus courageux de la bande.
Je vais y aller, je risque rien. Non, mais pas trop près, parce que le trou noir, c'est, je crois que il est de 4 milliards de masse...
4 millions de masse solaire.
Donc, il a en gros... une dimension qui est à peu près celle de l'ordre du système solaire, c'est-à-dire c'est très petit. Mmh. Ça dépend de la nature des étoiles qui sont autour. A priori, on ne voit que les étoiles très très brillantes et très jeunes, donc où il y a eu peu de chances que des planètes se soient développées, encore que. Ouais. Il est possible qu'il y ait des planètes relativement proches de ce trou noir à quelques centaines d'années-lumière.
Clément Ranc, qu'est-ce que le but caché de ces recherches, c'est de trouver de la vie ailleurs, évidemment.
Bah oui, c'est une question évidemment, c'est qu'on a toujours en tête. Mon rôle quotidien, c'est pas de trouver de la vie sur une autre planète. Il y a plein d'autres questions, on va dire très scientifiques, qui sont intéressantes à étudier, comme quelle est la répartition des étoiles dans la galaxie, comment se forment les galaxies, où se trouve quelle est l'abondance des exoplanètes dans notre galaxie.
Donc il y a encore plein de questions, qui pourront peut-être trouver réponse. Oui. Ouais. Merci beaucoup. J'aimerais vraiment qu'on félicite Clément Ranc, parce que c'est un jeune doctorant. C'est sa première radio, c'est la première fois qu'il vient sur une antenne, c'est à France Inter. Et en plus, on lui a collé trois astrophysiciens, et pas des moindres, dont son prof en plus.
Il y a son chef qui écoute.
Il y a son chef qui écoute en plus.
C'est très bien débrouillé. Voilà.
C'était le pire des scénarios pour lui, et franchement, bravo. Il s'en est extrêmement bien sorti.
Merci.
Bravo à vous, Clément. Et bravo également, Philippe Hélarejos. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, encore un indice de la présence d'eau sur Mars. L'analyse des données du robot américain Curiosity dévoile la présence de perchlorate de calcium dans le sol martien. Ce type de sel abaisse le point de congélation de l'eau, forme avec la vapeur d'eau de l'atmosphère, donc une saumure qui s'infiltre dans les sols poreux de la planète. Mais les scientifiques assurent qu'il est très improbable de trouver de la vie sur Mars, les radiations cosmiques étant trop puissantes pour permettre toute vie comparable à celle connu sur Terre. Le plus vieil outil du monde, des outils en pierre datés de 3,3 millions d'années, c'est ce qu'ont présenté des chercheurs à la réunion de sociétés de paléoanthropologie qui se tient à San Francisco en ce moment. Les outils retrouvés au Kenya auraient été façonnés par des australopithèques plusieurs centaines de milliers d'années avant l'arrivée du genre Homo, et leur confirmation reculerait de 600 000 ans, rien que ça, l'apparition des premiers outils. Et puis le Musée de l'Homme répond ce soir à vos questions. À 6 mois de sa réouverture, après 6 ans de rénovation, le musée organise à 18h une rencontre en ligne avec 7 chercheurs représentant ses disciplines phares. Le but est de satisfaire l'appétit de savoir des internautes et répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'humain. L'adresse du site dédié est à retrouver sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez, la lumière dans notre dossier dans un instant. Après la musique. We'll be right back. La voix de Mick Jagger avec Under My Thumb à l'instant.
La tête.
Pas le moindre signal radio sur onde courte jusqu'à présent.
Carré.
Rien encore, commandant. Liaison radio, on entend une voix ici.
Mathieu Vidard.
Humaine, on dirait. Poussez le son.
Sur France Inter.
Une année internationale de la lumière, une exposition donc à voir en ce moment à la Cité des Sciences à Paris. Trois astrophysiciens viennent nous éclairer cet après-midi pour nous raconter comment la lumière est apparue, ce qui la caractérise, comment elle se déplace. Trois astrophysiciens qui sont également commissaires donc de cette expo 2015, Odyssée de la lumière, c'est à voir jusqu'au 30 août. Roland Lehoucq et Jean-Marc Bonnet-Bideau, vous travaillez tous les deux au commissariat à l'énergie atomique. Et puis à vos côtés, Hervé Doll, professeur à l'Institut d'astrophysique spatiale. Les messages franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. 2015, donc année internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière. Jean-Marc Bonnet-Bideau, pour quelle raison cette année en particulier il y a une...
Ah oui, il y a plusieurs raisons, ouais. Dont une intéressante parce qu'elle est historique, très ancienne. 1015, premier traité d'optique.
1015
Voilà, d'un persan qui s'appelle Ibn al-Hatam. En fait, on l'appelle Al-Hazen en latin. Et il fait le premier la constatation qu'à la différence des Grecs qui pensaient que la lumière partait de l'œil pour aller vers les objets, eh bien c'est l'inverse.
Ouais.
Et c'est le premier traité d'optique moderne, on pourrait dire, de physique moderne. C'est les prémices de ce qui va être après la révolution scientifique.
Ouais.
Ensuite, évidemment, on a 1865, qui sont les équations de Maxwell, qui régissent justement le comportement de la lumière. Et puis, un peu plus près de nous, déjà, ça fait un siècle, 1915, parce que la relativité d'Einstein, effectivement, nous décrit l'interaction, ouais, évidemment, de la lumière et de la matière. Et puis là, en fait, une dernière date très importante, dont on fête le 50e anniversaire, 1965, la, ouais, première découverte de ce fameux rayonnement de fond de l'univers.
Bon, ça fait une bonne raison.
Ça fait
plusieurs bonnes raisons, effectivement. Roland Lehoucq, donnez-nous envie d'aller voir cette exposition à la Cité des Sciences. Comment elle s'articule alors? Il y a deux particules, c'est ça?
Oui, alors l'idée de l'exposition était de faire réaliser aux visiteurs que finalement, sur la Terre, on est au milieu, entre guillemets, entre deux photosphères, deux sphères de lumière très importantes, qui sont la première, la surface du Soleil,
ouais,
pour des raisons presque évidentes, mais on va pouvoir élaborer tout à l'heure. Et la deuxième, c'est le fond diffus cosmologique, une sphère qui est bien plus lointaine, évidemment, que la surface du Soleil, et surtout qui n'est pas visible à nos yeux.
Donc c'est deux sources importantes.
Deux sources très importantes, à la fois historiquement, si j'ose dire, dans l'évolution de l'univers, et puis très directement pour les humains, le Soleil, simplement pour la vie sur Terre, en tout cas la vie de surface, et puis le fond diffus cosmologique pour la vie intellectuelle des humains, une partie de la vie intellectuelle des humains pour la compréhension de l'univers. l'univers. Et donc, pour comprendre un peu ces deux sources de lumière très importantes, parmi d'autres, mais qui sont vraiment très importantes, on a imaginé que deux particules de lumière, deux photons, Max et Soho, Soho pour le soleil et Max pour le fond diffus, se donnaient rendez-vous sur Terre, à Paris, à la Tour Eiffel, et racontent leur voyage depuis leur source primordiale, leur source primaire, leur primordiale parce qu'il y en a une qui est très ancienne dans le passé, et primaire, centrale, celle du centre du soleil. Et qu'est-ce qu'ils voient de tout ce voyage, qu'ils nous racontent ce voyage, jusqu'à leur rendez-vous au pied de la Tour Eiffel ou de la Tour Eiffel.
Hervé Dolle, alors évidemment, les deux voyages n'ont pas du tout la même durée entre le fond diffus cosmologique et le soleil. Ils ont beaucoup de choses en commun ou pas ?
Alors, ils ont énormément de choses en commun. Enfin, ils ont tout en commun. C'est ça, l'unicité et la beauté de la physique, un peu comme la République, hein, une et indivisible. La physique est une et indivisible. Elle est unitaire, en quelque sorte. C'est-à-dire que les photons voient la même chose, sauf que les échelles de temps et d'espace ne sont pas les mêmes. Ouais. Au début, vous commencez au centre du Soleil ou dans l'univers très chaud, dans un milieu très dense, très chaud, dans lequel la lumière ne se propage pas. Ensuite, il y a cette libération, la photosphère dont parlait Roland, donc la libération de cette lumière. Puis le voyage avec les interactions variées, on pourra peut-être détailler tout à l'heure. Et puis l'absorption par nos yeux ou par un satellite qui s'appelle Planck, de cette lumière primordiale, ou donc par une feuille d'arbre pour la photosynthèse, s'agissant du photon venant du soleil. Donc en fait, les étapes sont les mêmes, la physique est la même, il y a juste des petits facteurs de vent qui changent un petit peu le temps.
Le photon cosmique et le photon solaire, alors, c'est quoi l'échelle de temps justement? Vous dites 13,7 milliards d'années pour le premier.
13,8 milliards d'années. Ouais. 13,77, si on veut dire.
77, c'est pour ça que j'ai dit. Alors, soyez pas méprisants comme ça. Mais il faut on a changé depuis.
Je ne suis pas d'accord.
C'est 13,77 les derniers chiffres de Planck, non?
On ne peut pas le dire, donc il faut être honnête.
Enfin, c'est les derniers chiffres proposés quand même. Chiffres. C'est plus 13,8.
Voilà. En tout cas, il a mis, disons, des milliards. Plus de 14 milliards d'années en chiffres ronds.
Voilà, tout le monde est d'accord.
Presque 14 milliards d'années en chiffres ronds.
C'est le diplomate, Roland
Luc. Alors que le photon qui a été émis par la surface du Soleil met 500 secondes pour arriver sur Terre, mais la lumière de l'intérieur du Soleil, un photon qui part du centre du Soleil, met 100 000 ans à peu près. Ça va à peu près 100 000 ans pour arriver à la
surface du Soleil. Voilà.
Donc, il y a des échelles très différentes, même dans le Soleil. Donc, 100 000 ans pour divaguer dans le Soleil par diffusion successive. Et puis, une fois qu'il est dans la surface du Soleil, dans cette photosphère, à l'endroit où il y a si peu de matière que maintenant, il va pouvoir enfin se propager en ligne droite sans interagir avec la matière.
Donc, dans le vide, vraiment.
Dans le quasi-vide au début. Puis après, c'est vraiment le vide interplanétaire. Il arrive sur Terre 500 secondes plus tard. Donc, vous voyez, il y a les échelles de temps, même pour le Soleil, sont différentes. Et puis, celles du Soleil, les échelles de temps concernant le photon solaire et les photons cosmiques, évidemment, sont encore très différentes.
Et c'est vertigineux, Jean-Marc Bonnet-Bido. Hein.
Oui, c'est ça, absolument. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'exposition, on l'a découpé en cinq. Et à chaque fois, vous avez un parallèle. Vous suivez le Max. Alors, Max, c'est parce que Max Planck, hein, le fameux physicien allemand avec lequel on a dénommé le satellite qui a observé le fond diffus. So, c'est parce que c'est Solar Heliospheric Observatory, un satellite en orbite autour du Soleil. Vous suivez, on a découpé en cinq étapes de la physique. C'est-à-dire qui ont des termes physiques parce qu'on retrouve la même interaction matière-lumière. Lumière-matière, c'est un peu le yin et le yang de la physique. Hein. C'est deux composés complémentaires qui interagissent sans cesse entre eux. Ouais. Et c'est ce qu'on décrit dans l'exposition. Et on découvre pas à pas que les mêmes types d'interactions ont lieu pour ces deux lumières très, très différentes.
Alors justement, Hervé Dolle, comment on explique simplement ce qu'est la lumière en tant que phénomène physique? Alors pour bien percevoir le...
Il y a plusieurs manières, mais une des manières, c'est de dire que c'est un grain d'énergie qui se balade dans l'univers. Ouais. On peut aussi dire de manière également... quasi correct, que c'est une onde électromagnétique, là je jargonne un peu, mais enfin c'est une onde électromagnétique qui transporte de l'énergie, une phase, une fréquence, etc. Et voilà.
Donc de l'énergie et surtout pas de la matière. Hein. Il n'y a pas, de transport de matière.
Exactement, c'est que de l'énergie.
C'est vraiment la distinction. Jacques sur Twitter demande, est-ce que la lumière occupe de l'espace?
Remplit l'espace, puisque dans l'univers, il y a la lumière, cette lumière primordiale issue du fond diffus cosmologique remplit l'espace. Et puis, il y a bien sûr aussi la lumière des étoiles, alors qu'il n'est pas arrivé au même moment, qui est bien plus tardive, au moment où se former enfin les premières galaxies, les premières étoiles, mais la lumière remplit l'espace.
Ouais. Mais
ce qui est très étonnant, c'est que dans le rapport entre cette lumière de fond de l'univers et la lumière des étoiles, c'est complètement différent. 99% de la lumière qui nous environne est due au fond de l'univers. Ouais. Et donc les étoiles en rajoutent très très peu. Et ça, c'est très très étonnant.
Donc le fond de l'univers, le fond diffus cosmologique, avec cet événement 380 000 ans après le Big Bang,
qui s'est donc diffusé
Roland Leuc,
et qui emplit la sphère, qui est notre sphère d'observation.
Voilà, ouais.
Et c'est cette lumière qui est largement prépondérante. Tout ce qui a été rajouté après a été rajouté en quantité négligeable.
Mais 380 000 ans après le Big Bang, c'est une libération de la lumière, Hervé Dolle ?
Oui, oui, c'est une libération.
Donc comme... elle était là, elle existait déjà.
Ah oui, elle existait depuis bien longtemps. Depuis les... Alors je ne sais plus à quelle époque la lumière est générée, mais essentiellement le début. Et le problème, c'est comme... En fait, le parallèle est pertinent, c'est pour ça que l'exposition a été faite sur ce thème. De la même manière qu'au centre du Soleil, la lumière divague, comme disait Roland, en fait, elle interagit avec les électrons essentiellement, c'est-à-dire qu'elle est absorbée, réémise dans un milieu très chaud, très dense. La lumière est présente, mais elle ne peut pas se balader en ligne droite. Le milieu est tellement dense, et tellement interagissant, si j'ose dire, que la lumière n'a pas le droit de se déplacer en ligne droite. Il fait trop chaud. Et donc,
quelle était la température ?
Elle était de milliards de degrés, mais la transition s'opère vers à peu près 3000 degrés, s'agissant de l'univers. Parce qu'il faut voir, par exemple, vous avez un petit atome d'hydrogène qui est tranquille, donc c'est un proton, un électron, il est tranquille dans son coin, il voit un photon arriver.
Oh.
Le photon, la seule envie qu'il a, lui, c'est de les séparer. Il est très jaloux, donc il veut séparer l'électron et le proton. Et tant que le photon a de l'énergie, il séparera le proton et l'électron. Et donc, il sera diffusé. Et oui, puis dans cette diffusion, il ne va pas en ligne droite. Il est un peu comme des boules de billard, pour faire simple.
C'est le briseur de ménage, quoi.
C'est le briseur de ménage à trois. Voilà.
Allez, on vous retrouve dans un instant. Beaucoup de questions pour vous sur franceinter.fr.
Je faisais être un garçon, sonné dans mon blouson, plaqué mes cheveux en arrière, me la jouer solitaire, à l'aise dans mes baskets, je promène mon corps d'athlète, marcher les jambes écartées, en prenant l'air dégagé. Ne plus laver mon blue jean, et faire des sourires aux filles qui passent sur mon chemin, sans que ça n'engage à rien. Les ongles un peu sales, je veux traîner dans les bars, je veux traîner dans la rue, sans qu'on regarde mon cul. Je veux être un garçon beau comme un Apollon, ou bien laid comme un pou, en vérité je m'en fous. Je veux être un garçon, je veux être un garçon, je veux être un garçon. Je veux être un garçon. Je veux être un costaud. Casser des cœurs au marteau. Dévaliser des poitrines. Sans l'air mort en sourdine. Je veux être un sale type. Qui met des boots et des slips. Qui derrière ses lunettes noires. Harponne les filles pour un soir. Je veux changer de peau. Me battre sur les trottoirs. Me battre dans les cafés. Me battre toute la journée. Je veux montrer mes biceps et puis cracher par terre. J'apprendrai la technique pour rouler des mécaniques. Je ne veux plus être une fille, une nana, une brindille. J'échange pour deux cons. Je veux être un garçon. Je veux être un garçon beau comme un Apollon ou bien laid comme un pou. En vérité je veux être un garçon. 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 Beau comme un Apollon ou bien laid comme un pou. En vérité, je m'en fous. Je veux être un garçon.
Et c'est Zaza Fournier sur France Inter. Que des garçons, justement, autour du micro aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi être fier, hein, d'ailleurs. Hein. Roland Lehoucq, Jean-Marc Bonnet-Bideau, Hervé Dolle. Oui.
La quatrième commissaire de l'exposition est Nabila Aghanim, qui est une femme.
Et elle ne pouvait pas venir aujourd'hui, malheureusement. Les objets de l'exposition, justement, en 2001, l'Odyssée de la Lumière, pardon, à la Cité des Sciences et de l'Industrie jusqu'au 30 août. Jean-Marc Bonnet-Bideau, qu'est-ce que vous montrez là au public? Parce que vous avez ressorti de très belles choses, quand même.
Oui, absolument. Alors, on a notamment sorti un des instruments historiques de l'histoire de la physique, qui est l'instrument qui a permis à Arthur Eddington, en 1919, de prouver la théorie de la relativité générale à l'aide de la déviation des rayons lumineux au bord du Soleil. Cet instrument, je l'ai redécouvert par hasard. Un Irlandais m'en a fait mention. Il était redécouvert il y a un an et demi dans les tiroirs de l'Observatoire de Dublin, oublié complètement. Ouais. Il a été rénové par les services du CEA. Il est présenté dans l'exposition avec une explication de cette expérience historique qui a qualifié la relativité, alors que si vous regardez bien la qualité des mesures d'Eddington, elle n'était pas suffisante pour conclure.
Ah oui, quand même.
Alors, c'est très intéressant du point de vue de l'histoire des sciences.
Un petit coup de magie, quand même. Voilà. Alors, il y a la salle des mirages.
Alors, la salle des mirages, c'est une expérience, évidemment, développée à partir de cette déviation des rayons lumineux par les masses. Mm-hmm. Elle est due à Paris Sud, à Xavier Maître notamment, et une association qui s'appelle Vois-moi à travers toi. Ils ont reconstitué dans une grande salle, relativement de 10 mètres par 10 mètres, avec au centre un cylindre qui matérialise un trou noir de 40 fois la masse du Soleil. Et par des calculs réels de la relativité, ils déforment en temps réel l'image d'une galaxie qui est portée par un visiteur et qui est vue de l'autre côté du cylindre, déformée par un autre visiteur. Mmh. Et ça, c'est exceptionnel, ça n'a jamais été fait en réel comme ça. Il y a eu des simulations des déformations dues à la gravité pour la lumière, mais c'est fait en réel de façon réaliste et calculée en temps réel par un ordinateur, et c'est très très beau à voir en plus.
Bon, il y a
cette lumière déviée fait des formes extraordinaires, fait des cercles absolument parfaits, qu'on appelle les cercles d'Einstein, fait des arcs, fait des effets d'amplification qu'on a réellement observés dans l'univers. Donc c'est vraiment une chose réaliste qu'on a observé d'ores et déjà.
Des objets autour de Planck aussi, hein, du satellite Planck, Hervé Dahl.
On a du vrai hardware, pardon pour jargonner, mais on a le vrai instrument qui a servi à tout tester le satellite Planck, donc qui a observé cette première lumière de l'univers, le fond cosmologique. Ouais. On a donc le modèle de test, parce que les instruments spatiaux que nous envoyons doivent être exempts de moindre début d'anticipation, de début de problème, parce que tout doit marcher. Donc on fait un modèle de test, de qualification, que l'on martyrise. On le vibre, on lui met des courants, on lui met de la lumière plus qu'il ne faut.
Vous êtes sadique un peu.
On est un peu sadique avec nos instruments. Ouais. Et une fois que ça marche, on fait le modèle de vol, qui lui est en vol, et donc on ne récupère pas. Donc il y a le modèle de vol, de qualification de Planck, une merveille de technologie, refroidie à 0,1 Kelvin. Et puis, il y a le modèle aussi de qualification de Golf qui était sur Soho, qui observe le Soleil.
Voilà, donc tout ça est à voir à la Cité des Sciences en ce moment. François, sur le mot-clé, l'attaque. La lumière change-t-elle de vitesse lorsqu'elle est déviée, justement ?
Roland Le Monde, la lumière, elle a toujours la vitesse de la lumière, je dirais presque par définition, dans le vide en tout cas.
Oui.
Elle peut changer de vitesse quand elle rentre dans un milieu, dans le verre ou dans l'air. Ou dans...
Par quoi elle peut être déviée dans
le
vide ?
Elle peut être déviée par des masses. Alors, la déviation résulte de son interaction avec la matière. Oui. Un processus qui avait été imaginé par Einstein, qui résulte très directement de sa théorie de la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, c'est la déviation par des masses sous l'effet de la déformation de l'espace-temps imposée par les masses. Elle peut être déviée, et là c'est des processus déjà plus connus, par diffusion, simplement elle interagit avec une particule de matière, avec un électron par exemple, et la collision la dévie comme une boule de billard est déviée contre une autre boule de billard.
Ouais.
Et là c'est une interaction qu'on connaît depuis plus longtemps. Elle peut être aussi absorbée par un atome neutre, et réémise dans une direction différente de la direction où elle est arrivée. Donc c'est une autre façon de la dévier. Et donc c'est toutes ces déviations, toutes ces interactions que la lumière subit, portent témoignage précisément de ces interactions, de la matière qu'elle a rencontrée, de sa distribution, de ses qualités, de son état, de sa température, du champ magnétique qu'il y a éventuellement, etc. Donc l'analyse de la lumière qui nous parvient permet de tracer à la fois des informations sur la source, bien sûr, mais aussi sur les interactions qu'elle a subies entre la source et nous.
Donc il y a toute une mémoire, au fond.
Exactement.
Hein,
et la difficulté, c'est bien sûr de démêler les effets de source et les effets de propagation pour sortir l'information pertinente dans chaque zone.
Et raconter la bonne histoire.
Exactement.
Jean-Marc Bonnet-Bideau.
Oui, absolument. C'est pour ça que, dans ce que vient de décrire Roland, il y a toute l'histoire qu'on cherche à reconstituer à partir de ce rayonnement de fond, parce que lui, c'est le seul, c'est un messager parfait. Il a traversé tout l'univers avant de nous arriver. Donc il nous raconte toute l'histoire de l'univers. Il n'y a pas d'autre radiation qui peut nous raconter ça. En revanche, il y a beaucoup de difficultés parce qu'il y a des avant-plans. Il y a des choses qui sont superposées localement.
Oui.
Alors, on parle de Planck en disant il nous fait la danse des neuf voiles. Parce qu'en fait, on est obligé d'enlever neuf voiles successives
c'est ça,
qui
font un peu la poussière. Quoi, hein.
Alors ça, c'est quand même c'est rendre hommage, aux physiciens et aux astrophysiciens qui font le travail parce que c'est extrêmement complexe.
C'est très complexe et c'est d'autant plus intéressant que cette lumière donc, du fond cosmologique encode l'état de l'univers à peu près 400 000 ans après le Big Bang. Il encode aussi une information provenant du tout début de l'univers, à l'époque de l'inflation cosmique. Et par ailleurs, cette image du fond cosmologique sert de lumière d'arrière-plan sur la formation des galaxies, par exemple. On parlait de déviation, mais en fait, la lumière du fond cosmologique est déviée par les grandes structures. Donc, on observe le lensing. On parlait tout à l'heure de micro-lensing, là, on parle du lensing de l'image du fond cosmologique. Donc, en observant le fond cosmologique, vous avez trois bonus. D'abord, vous avez une carte d'identité parfaite de l'univers à peu près 400 000 ans après le Big Bang. Vous avez une information sur l'inflation cosmique au tout début de l'univers.
et une information sur ce qui se passe entre le fond cosmologique et nous, la formation des structures. Modulo, les voiles que l'on doit
J'imagine
inverser,
le nombre de calculs, inverser, d'équations pour
de
balayer.
Calcul, c'est incroyable, de c'est inouï, quoi. Cerveau, de,
c'est ça, c'est du jus de cerveau.
De, voilà, de, ouais, de discussion à n'en plus finir, c'est très complexe.
Ouais. Et en fait, avec parfois des erreurs, évidemment aussi.
Bah oui, des incertitudes.
Parce qu'on prend certaines poussières pour des.
Mais ça, c'est pas nous.
Oui, non, mais. Ça, c'est vos copains de.
C'est nos petits copains américains qui ont été un peu plus vite.
Ça prouve bien la difficulté. Il faut être très, très prudent, même avec les résultats de Planck. Parce que le messager, il arrive, mais il faut vraiment le faire parler. Quoi.
Ouais. Qu'est-ce qu'une année-lumière, demande Gilles, sur le mot-clé l'attaque ?
Une année-lumière, oui, c'est monsieur. La distance parcourue par la lumière en un an dans le vide à la vitesse de 300 000 km par seconde.
Ce qui fait donc.
À peu près 10 000 milliards de kilomètres.
Voilà. Et ça, déjà, ça donne le vertige.
C'est déjà pas mal.
Ça en impose.
Que les distances que l'on connaît plus usuellement, qui se chiffrent en kilomètres ou en centaines de kilomètres, sont très petites. Et même dans le système solaire, la taille du système solaire, c'est de l'ordre du milliard de kilomètres. Là, on parle de 10 000 milliards de kilomètres.
C'est
donc
ça.
C'est des échelles beaucoup plus grandes.
Et beaucoup plus proche de nous. Donc ce petit photon solaire, qui de la surface jusqu'à la Terre, lui met 500 secondes.
500 secondes à 300 000 km par seconde, ça fait. Une unité astronomique, la distance moyenne Terre-Soleil, environ 150 millions de kilomètres.
Roland Le Houc, vous qui êtes un cinéphile averti, Sunshine, est-ce que vous l'aviez vu,
ah oui,
de Danny Boyle ?
J'ai vu Sunshine, bien
voilà.
sûr.
En 2057, le Soleil meurt en s'éteignant progressivement. Il y a un vaisseau avec un équipage qui est envoyé dans l'espace pour tenter de le rallumer.
Ah oui, ça m'avait beaucoup fait rire.
Ouais. Et la mission a pour but donc d'expédier une charge thermonucléaire au cœur du Soleil pour le rallumer.
On va dire que c'est un peu vain. Rallumer le Soleil qui produit en une seconde un million de fois plus d'énergie que l'humanité en consomme en un an, c'est un peu vain d'envoyer sa bombinette pour le rallumer.
Oui, mais le capitaine du vaisseau, lui, n'a peur de rien et prend même un bain de luminosité.
Icarus ?
Oui, docteur Searle ?
Pourrais-tu modifier les filtres de la salle d'observation ?
Filtrer davantage ou moins, docteur Searle ?
Moins. Oh, bon sang. Icarus ? Est-ce qu'on est loin de la luminosité maxi ?
À cette distance de 57 millions de kilomètres, vous observez le Soleil à 2% de sa luminosité maximale.
2%. Tu peux me montrer 4%?
4% entraînerait des lésions irréversibles pour vos rétines. Cependant, vous pourriez observer 3,1% pendant une durée n'excédant pas 30 secondes.
D'accord. Icarus, je vais reprogrammer le filtre à 3,1%.
Voilà, ça c'est le petit bain de luminosité. C'est...
Oui, à la distance qu'ils indiquent dans le film, d'ailleurs 57 millions de kilomètres, qui est en gros la distance de Mercure au Soleil, le flux de lumière du Soleil, il est à peu près 10 fois supérieur à celui qu'on reçoit de la Terre. Sur Terre, on reçoit à peu près, hors atmosphère, 1360 watts, mettons 1000 watts pour faire, ou 1 kilowatt par mètre carré.
Ouais.
Là, ça fait 10 kilowatts par mètre carré. Je peux vous dire, il vaut mieux pas être en train de bronzer.
On voyait Roland Le Houc prendre des notes pendant l'extrait. Voilà.
Il faisait ses calculs.
Exactement. Vous êtes un dingue. Jean-Marc Bonnet-Bideau, justement, ces particules de lumière dans le noyau solaire, donc Roland Le Houc l'expliquait tout à l'heure, c'est un véritable labyrinthe avant d'arriver à la surface. Il faut 100 000 ans, donc c'est ça, pour émerger.
C'est quand même extraordinaire, parce que si vous faites le calcul rapidement, le Soleil a 700 000 km de rayon. Donc, à la vitesse de la lumière, elle doit sortir en 2,3 secondes. Et il met 100 000 ans.
Ouais.
Et donc, en fait, elle va bien à la vitesse de la lumière, mais elle fait un trajet infini, pratiquement. Elle fait deux fois l'aller-retour entre le centre de la Terre et la galaxie, ce qui explique qu'elle mette 100 000 ans. Et c'est simplement par la densité, par le nombre de collisions. On estime qu'un petit grain de lumière collisionne avec un grain de matière tous les centimètres. Vous imaginez la distance qu'il a à parcourir dans ces successions d'interactions.
Alors, justement, la vitesse de la lumière, on reste un petit peu là-dessus. Lorsqu'elle arrive dans la matière, est-ce que toutes les vitesses sont les mêmes selon toutes les matières, ou est-ce que selon certaines matières, que ce soit l'eau par exemple, la vitesse change ?
Non, la vitesse de la lumière dépend de la matière qu'elle traverse. Si c'est de l'eau, du verre ou quoi, ça change. Et c'est ce qu'on appelle l'indice optique.
Qu'est-ce qui freine le plus la lumière alors, a priori,
c'est l'eau. Par exemple, si on prend des matières transparentes qui ont l'air un peu sans couleur, disons, on pourrait prendre l'eau, le verre et le diamant.
D'accord.
Et elle est plus rapide dans l'eau que dans le verre, et plus rapide dans le verre que dans le diamant.
D'accord.
Voilà. Donc voilà, c'est juste les qualités d'interaction de la lumière avec la matière dans laquelle elle se propage. Donc ça dépend vraiment du matériau qui est...
C'est
qui
pour
est...
ça que le diamant reflète autant la lumière.
Si le diamant reflète, c'est précisément parce qu'il a un indice optique très élevé, et que cela permet, parce qu'il est taillé en facettes, ce qu'on appelle des réflexions totales. Et donc, ce que l'on voit, d'habitude, quand vous regardez un verre d'eau, la lumière, elle traverse le verre d'eau, et voilà. Ouais. Mais si c'était un verre de diamant, le même objet en diamant, la lumière rentre et une partie de la lumière est réfléchie par les parois, par les facettes et ressort vers vous, vers votre œil. Donc il y a de la lumière qui est d'une certaine façon recyclée à l'intérieur de l'objet, renvoyée vers l'observateur et vers la source. Et du coup, on a l'impression que l'objet brille plus intensément que l'éclairage qu'il subit. Et ça donne une impression de brillance et de... Voilà, c'est ce qui fait la qualité du diamant visuel, quoi, qui est toujours une lumière assez... Enfin, un aspect toujours assez resplendissant.
Jean-Marc Bonnet-Bideau ?
Non, mais c'est effectivement intéressant de savoir que la lumière... pourquoi on parle de la lumière au centre du Soleil ? Parce qu'elle est produite au centre du Soleil. Mais elle n'est pas produite à cause des réactions thermonucléaires. Elle est produite parce que le Soleil est chaud. Et quand on fait le calcul, ce qui est très étonnant, c'est que la quantité d'énergie dégagée par le Soleil est très, très faible. Vous prenez un cube d'un mètre et vous avez une énergie dégagée par le Soleil de seulement 30 watts. C'est juste une petite ampoule qui est dans votre four. Et c'est parce que le Soleil est extrêmement volumineux, qui produit à la fin beaucoup d'énergie. Ce qui veut dire, ce que c'est rassurant pour la durée de vie du Soleil, parce qu'effectivement, en dégageant avec économie sa puissance, elle dure beaucoup plus longtemps. C'est pour ça que le Soleil pourra durer encore 4 milliards d'années.
Laurent, sur Facebook, demande, est-ce que la lumière a une masse ? Hervé Doll.
Non, la lumière n'a pas de masse. C'est un petit concentré d'énergie qui se balade et qui interagit avec une certaine vitesse selon la densité du milieu et sa nature. Mais non, il n'y a pas de masse. En tout cas, on ne la lui connaît pas. Elle n'est pas prédite.
Eh bien, merci pour cette réponse. Mais vous restez quand même avec nous parce qu'il y a une dernière partie dans un instant avec d'autres messages sur franceinter.fr. Don't Wanna Fight avec Alabama Shakes.
La tête au carré sur France Inter.
Ils sont astrophysiciens et commissaires de l'exposition 2015 L'Odyssée de la Lumière. Roland Lehoucq, Jean-Marc Bonnet-Bideau et Hervé Dolle, nos invités donc cet après-midi avec une avalanche de questions pour vous et sur la lumière. Donc il va falloir aussi voir l'expo hein, parce que c'est un bon complément effectivement pour voir le parcours donc, de ces deux particules de lumière. Avec par exemple Edouard qui nous pose cette question. Est-ce que la lumière éclaire la matière noire? Est-ce qu'il y a une interaction entre la lumière et la dite matière ou énergie noire? Jean-Marc Bonnet-Bideau.
Absolument. Alors, c'est une influence. Elle ne l'éclaire pas, mais elle nous la révèle parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la lumière étant déviée par la matière, même si sa matière est noire, elle est déviée par cette matière noire. Mmh. Et la grande capacité qu'on a actuellement pour déterminer où est la matière noire et en quelle quantité elle est, c'est par la déviation, ces fameux mirages gravitationnels dont nous parlions.
Donc, c'est les moyens indirects.
Indirects. Hein, toujours, alors que,
comme pour les trous noirs,
bien sûr.
Alors
que la matière noire n'émet pas elle-même de la lumière. C'est pour ça qu'elle est noire.
Hervé Dolle.
Et la question comporte aussi l'énergie noire, qu'il ne faut pas, avec laquelle il ne faut surtout pas confondre la matière noire. L'énergie noire est un fluide qui implique, disons, la dynamique totale de l'univers. On ne connaît aucune interaction, on ne sait même pas ce que c'est que l'énergie noire. C'est un terme de pression négative. Alors, sans entrer dans les détails, là, on ne s'attend absolument pas à une quelconque interaction avec la lumière. Ouais. Mais tout comme pour la matière noire, il y a des effets que l'on peut voir sur éventuellement la formation des galaxies qui traduiraient la présence de cette énergie noire.
Donc, mais ce qui est fou, c'est qu'il y a très peu de choses qu'on connaît. Il y a beaucoup de mystères encore et on arrive à quantifier la matière noire comme l'énergie noire hein, et de façon assez précise.
De façon ultra précise.
On quantifie assez bien notre ignorance en fait.
Mais c'est ça, c'est formidable.
Si on borne assez bien l'ignorance. Ouais. En gros, 5% est à peu près clair et le reste, c'est noir.
La boutade, c'est si vous me donnez une équation d'état, je vous déduis tout avec une grande précision. Donc on a des équations d'état, c'est-à-dire une équation qui traduit cette matière noire, cette énergie noire. On sait le quantifier à un degré de précision lors du pourcent. Ouais. Après, ce qu'il y a derrière.
5% c'est pour la matière ordinaire.
Oui, je parlais de la précision. Oui,
il faut bien réaliser que ce sont que des hypothèses. C'est-à-dire, c'est souvent ça.
C'est un cadre de pensée, bien sûr. Alors, c'est un cadre de pensée. Dans ce cadre de
jusqu'à ce qu'on trouve réellement quelque chose qui pourrait correspondre.
Et on n'y est pas là encore.
On n'y est pas du tout. Oui, par exemple, la matière noire, ça fait 30 ans qu'on la cherche. On ne l'a jamais trouvée. On la trouve indirectement, mais rien ne nous prouve que les effets que l'on voit ne sont pas dus, par exemple, à une loi de la gravitation incomplète. Donc, c'est très, très important de le rappeler ici, parce que sinon, on ne comprend plus très bien comment se fait la science.
Hervé Dolle.
Oui, je ne suis presque pas d'accord avec toi.
C'est bien.
Parce que je suis d'accord sur une certaine échelle, mais sur les échelles du fond cosmologique, notamment, on a du mal. La gravité modifiée, par exemple, n'arrive pas à expliquer tout ce qu'on observe. Donc, en fait, il y a encore plus d'inconnus que ça. La matière noire a cet avantage d'être extrêmement élégant et simple, sauf qu'on ne sait pas ce que c'est.
Là,
c'est
combien,
donc, ça veut dire qu'il y a d'autres lois, au fond ?
Il pourrait y avoir d'autres lois qui, pour l'instant, sont à la peine. C'est-à-dire qu'en fait, la matière noire est la moins mauvaise des hypothèses et qui a le bon goût de marcher à peu près partout.
C'est le moins pire.
C'est souvent comme ça en science. De toute façon, il y a toujours une période de maturation où on pédale dans la semoule, on ne comprend pas, les concepts sont mis à l'ouvrage en permanence. Pensez à la transition fin 19e, début 20e, où en gros, fin 19e, certains disaient la physique, c'est réglé, on a tout compris. Il y a quelques petits nuages à régler.
Et Einstein est arrivé.
Et parmi ces deux nuages, il y en a un qui a donné toute la physique quantique et il y en a un qui a donné toute la relativité restreinte à la relativité générale. Donc, vous voyez, des fois, ce sont des petites choses qui ont l'air toutes simples.
Pour revenir sur les chiffres qui génèrent et sur l'âge de l'univers dont on parlait, à l'époque, on vous disait que le Soleil avait 100 millions d'années et tout le monde était content avec ça. Donc, c'est pour vous montrer que comment les choses peuvent évoluer.
La science évolue.
Ne disons pas l'univers à 14 milliards d'années, disons que dans le cadre
d'une
théorie cosmologique qui s'appelle le modèle du Big Bang, on estime que le.
Bon, et le Soleil, il a combien 5 milliards d'années pour l'instant?
À peu près 4,5 milliards d'années.
Voilà, exactement.
Et il est encore la même chose
À peu près encore la même chose.
À peu près encore. L'âge du Soleil, il est estimé en fait à partir de l'âge des plus anciennes météorites qu'on a pu trouver sur Terre, qui sont les traceurs des premiers instants de la nébuleuse qui a formé les planètes. Et donc le Soleil, l'essentiel de la nébuleuse d'ailleurs a formé le Soleil. Et l'âge donné actuellement, c'est 4,56 milliards d'années. Mais encore une fois, si on trouve une météorite un tout petit peu plus vieille, ça donnera un tout petit peu plus.
Larry demande, l'existence de l'antimatière conduirait-elle obligatoirement à l'existence d'antilumière? C'est un terme qu'on ne connaît pas en tout cas.
Non, l'antilumière, on ne l'utilise pas beaucoup parce qu'en fait, je crois que le photon ou la lumière, c'est sa propre anti-chose, si j'ose dire. Son propre anti.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que si vous prenez deux grains de lumière, bien vous pouvez selon leurs caractéristiques, vous pouvez éventuellement les annihiler. C'est ce qu'on appelle les interférences, par exemple. Et on peut faire ça avec de la matière, mais pour faire ça avec de la matière, il faut un électron, par exemple, et un anti-électron pour qu'il se transforme en lumière, intégralement transformée en lumière.
L'atmosphère terrestre, tiens, justement, ça joue quel rôle sur cette lumière qui nous provient du Soleil ?
Alors, ça joue un rôle très très important. Premièrement, ça joue un rôle de filtre, parce que vous savez que dans la lumière, on l'a peut-être pas dit assez, il y a la lumière visible que nous pouvons observer, et puis toutes les autres lumières. Et ces autres lumières, dans la grande partie de leur rayonnement, sont extrêmement nocifs pour la vie. On parle, oui, par exemple des rayons X, des rayons gamma. Et ça, on a la chance d'avoir sur la Terre une mince couche d'air qu'on appelle l'atmosphère, qui filtre tous ces rayonnements. Mm-hmm. C'est pour cela que pendant 4000 ans, on a fait l'astronomie avec la lumière que nous appelons visible, puisque c'est la seule qui était capable de traverser complètement l'atmosphère. Donc, premièrement, un rôle de filtre, et deuxièmement, un rôle de thermalisation, de régulation de la température, ouais, à la surface.
Sans atmosphère, on aurait combien sur Terre, par
moins
exemple?
Moins 18 sur Terre, moins 18, ouais, degrés. 18 degrés en dessous du zéro. C'est-à-dire, évidemment, la Terre complètement gelée. Et c'est simplement l'effet de couverture, si vous voulez, d'isolant thermique que crée la couverture de l'atmosphère terrestre, qui nous fait gagner 30 degrés et amène la Terre à 15 degrés au-dessus du zéro.
Ouais. Hervé Doll.
Oui, cet effet de thermalisation est essentiel. J'ajouterais pour la partie, disons, spectrale, tu disais qu'il y avait beaucoup de types de lumière, ce qui est vrai, donc des UV, des rayons gamma, des radios, etc. L'atmosphère aussi rajoute de la lumière. De fait, de sa température, ça vient d'être précisé, l'atmosphère rayonne en infrarouge. Donc, si vous avez un télescope à ma gauche, qui est un télescope visible, naturel, vous observez la nuit, vous pouvez regarder les étoiles, etc. C'est formidable, parce que la nuit est noire, entre guillemets. Si à ma droite, vous avez un télescope en infrarouge qui existe un petit peu au sol, en fait, la nuit est aussi claire que le jour parce qu'en fait, c'est l'atmosphère qui rayonne. Parce qu'elle a une température en gros de 0 degré en moyenne si on intègre. Hein, je dis peut-être des bêtises, mais c'est de cette façon-là. Et donc, ça émet des photons infrarouges. Et donc, c'est pour ça que dans certains domaines, il faut aller dans l'espace pour s'affranchir de ce filtre. Donc, l'atmosphère absorbe, c'est l'essentiel, mais elle re-rayonne un petit peu. Et il y a cet effet de serre qui nous est en partie salutaire et mais qui est aussi l'origine du problème, parce qu'il s'emballe.
Ouais. Roland Lehoucq.
Donc voilà, c'est ça que j'allais ajouter, c'est qu'effectivement cet effet de serre nous est très salutaire, parce que sans lui, il ferait beaucoup plus froid sur Terre, mais qu'effectivement le perturber, modifier l'équilibre thermique finalement entre la Terre et le Soleil, la Terre qui reçoit du rayonnement du Soleil et qui en absorbe une partie au niveau du sol et qui rayonne de l'infrarouge bloqué par l'atmosphère, fait qu'il y a un équilibre thermique qui s'établit et que ce bilan-là, si on le modifie un petit peu, évidemment, on va changer de position d'équilibre et on va se retrouver dans une situation, c'est ce qui semble se dessiner, qui ne sera plus la même et qui sera peut-être moins favorable à notre survie, à notre confort à la surface de la Terre.
Hardy, sur le mot-clé, l'attaque demande comment détecter des trous noirs avec des lasers ? Qui a une réponse ?
Vas-y, Roland. Personne n'essaie de détecter les trous noirs à l'aide de laser. On n'a jamais essayé. Les trous noirs,
ça serait d'envoyer un laser directement.
Alors, on pourrait imaginer
au centre de la galaxie.
Imaginons que j'ai un trou noir devant moi, là, sur le fond noir du ciel. J'ai un trou noir devant moi et je l'éclaire. Qu'est-ce qui se passe? La lumière ne. Alors, si vous visez pile dessus, la lumière ne revient pas. Ce qui est différent, si vous imaginez une sphère noire parfaitement absorbante, la lumière visible que vous émettriez vers cette sphère absorbante noire, vous ne la verriez pas entièrement absorbée, mais étant absorbée, elle va réchauffer la sphère noire qui rayonnera en lumière infrarouge.
Et si on vise justement la périphérie du trou noir, on peut en dessiner le contour peut-être,
non ? Si vous maintenant vous visiez à la périphérie du trou noir, vous pourriez voir des rayons lumineux qui vous reviennent déviés par les déformations spatio-temporelles imposées par la masse du trou noir. Et la lumière qui passe à côté, au lieu de le rater puis de continuer comme ça à l'infini, elle pourrait faire le trou noir vous revenir. Ou elle pourrait faire trois fois le tour ou deux fois et vous revenir. Et donc, du coup, vous pourriez avoir une idée que vous éclairez un trou noir plutôt en visant à côté ou même en visant pile dessus.
Voilà, avec un petit calcul, quoi.
Exactement.
Toujours pareil.
Et je pense que c'est ce qui est réalisé dans notre salle des mirages à l'exposition.
Ah oui,
parce que le trou noir de la centre de la galaxie est éclairé par une galaxie et vous envoyez les effets de l'autre côté.
Bien joué, Jean-Marc Bolibido.
Oui, bien. Alors, on pourrait préciser pour être vraiment complet que ce sont les effets, comme on dit, au premier ordre. Les effets, disons, principaux, les effets les plus évidents, il y a tout un tas de petits effets supplémentaires, mais qui sont difficiles à voir parce qu'ils se passent très proche du bord du trou noir, très proche de l'horizon du trou noir, et qui n'étaient pas faciles à représenter dans les projections telles qu'elles étaient faites. Mais les effets massifs, évidents, et déjà observés très directement dans la réalité observationnelle de l'astrophysique, qui sont visibles de manière assez spectaculaire.
Ludovic nous dit, si la lumière est émise par un corps en rotation, sa propagation à grande distance serait-elle courbée comme un jet d'eau ?
Probablement pas. La célérité de la lumière, donc sa vitesse dans le vide étant constante, on n'observe pas cet effet. En revanche, il y a d'autres effets peut-être auxquels la personne pense. C'est que si une étoile en rotation tourne sur elle-même, on peut voir via des effets Doppler ou d'autres effets, donc qui ne sont pas dus à la vitesse de la lumière, mais qui sont dus à l'atmosphère de l'étoile, on peut voir des effets sur sa rotation. Il y a un phénomène presque identique qui a lieu avec un son. Je conseille aux auditeurs de faire pareil. Si vous prenez une cloche, que vous la sonnez, un son de cloche. Maintenant, vous mettez un élastique au-dessus et vous mettez votre cloche en rotation et vous la tapez, vous observez un phénomène de battement qui s'appelle. Ben, il se passe un peu pareil pour la lumière. On observe dans les étoiles le battement de l'atmosphère et on observe une sorte de modulation. Mais la vitesse, elle est toujours constante.
Jean-Marc Bonnet-Bideau,
conclusion. Non, c'est vrai, d'ailleurs, c'est un des objectifs de l'autre instrument que nous montrons dans l'exposition, qui s'appelle l'instrument Golf, qui est capable quand même de mesurer des vitesses. On mesure donc des vitesses avec cet instrument de l'ordre du millimètre par seconde à la surface du Soleil. Et cette information, si infime qu'elle soit, nous donne les meilleures indications de ce qui se passe à l'intérieur du Soleil en termes de pression, de température.
Écoutez, merci beaucoup, parce qu'on a envie d'aller voir cette expo grâce à vous. 2015, l'Odyssée de la Lumière, donc c'est à la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc c'est à Paris. Vous avez jusqu'au 30 août, si vous passez par la capitale, pour voir cette exposition et l'histoire de ces deux photons. Merci infiniment à tous les trois.
Merci.
Et à très bientôt, j'espère.